sont les villes qui donnèrent leur nom à une civilisation. C'est le cas de Rome et c'est la civilisation romaine que nous allons décrypter ce matin. Une civilisation à laquelle l'Europe doit beaucoup. Nous verrons de quelle nature est cet héritage en parcourant une vie de Romain. Son éducation, sa vie de couple, la condition de la femme, la sexualité, mais aussi les classes sociales, la vie politique et les loisirs. Votre invité Jacques Pradel est un historien de Rome, latiniste, Jean-Noël Robert. Il est l'auteur du livre « Rome, la gloire et la liberté aux sources de l'identité européenne ». C'est aux éditions Les Belles Lettres.
Absolument, et c'est passionnant, je vous le dis tout de suite. Bonjour Jean-Noël Robert.
Bonjour Jacques.
Merci d'être là. Vous êtes historien de Rome, bien sûr, historien du monde romain. Et je disais tout à l'heure en plaisantant à Jean-Michel Duez que j'ai toujours l'impression que vous revenez du... Bah alors là, on peut choisir, on peut mettre le curseur à peu près où on veut dans près de 1000 ans d'histoire, hein, parce que c'est une très très longue histoire.
Et oui, c'est quand même 13 Rome. Siècles, enfin 12 voilà. siècles, c'est quand même beaucoup. On imagine bien que les Romains n'ont pas été les mêmes du premier jour au dernier.
Alors dites-moi, on sait beaucoup de choses, hein, parce que là, Julie vient de donner un certain nombre de têtes de chapitres comme ça, qu'on va aborder ensemble. On sait vraiment beaucoup de choses. On le doit à qui ? À des historiens, des poètes
Eh bien, nous sommes bien renseignés, effectivement, et c'est un avantage pour essayer de mieux comprendre l'histoire, grâce essentiellement à deux sources. L'une, c'est bien sûr l'archéologie, c'est tout ce que l'on a gardé, et conservé, et quelquefois en meilleur état à travers le monde méditerranéen qu'à Rome même, pour des raisons qui tiennent à l'histoire essentiellement des papes d'ailleurs. Ouais. Vous savez que le forum romain est très détruit parce que les papes vendaient les pierres du forum pour alimenter leurs cassettes personnelles, donc au Moyen-Âge je parle bien entendu.
Oui, il y a prescription
donc,
maintenant.
C'est ce qui fait que le forum nous paraît bien dégarni aujourd'hui. Mais aussi, bien entendu, grâce aux textes. Nous avons énormément de textes latins et grecs, bien sûr. Et ça, c'est une précieuse source d'information. Alors, je précise tout de suite que, bien sûr, il y a énormément de textes. Et pourtant, ça ne représente, on peut l'estimer environ, qu'un quart de la littérature qui a dû exister.
Et oui,
il n'y avait pas l'imprimerie.
Donc,
les livres étaient copiés. Alors, ceux qui sont passés au travers des vicissitudes de l'histoire, ce sont les livres qui avaient été le plus copiés parce qu'il en est bien resté quelques exemplaires ici ou là, alors que ceux qui étaient à très peu d'exemplaires, évidemment, ont souvent péri dans les flammes des différentes invasions.
Alors, on sait évidemment beaucoup de choses sur la vie quotidienne, sur la façon dont on éduquait les enfants, dont ils naissaient, dont les hommes et les femmes se rencontraient, les gestes amoureux, l'intimité, la sexualité. Bon, et puis aussi, évidemment, tout ce qui concerne l'histoire, avec un H majuscule. Les péplums nous ont fascinés, mais ils sont souvent très loin de l'histoire.
Oui, effectivement. Hein? D'ailleurs, vous avez raison. Je voudrais dire que, malgré toutes ces informations que nous avons, nous sommes obligés de nous livrer à un exercice mental extrêmement complexe, parce que nous avons évidemment la fâcheuse habitude de lire ce qui nous est livré comme information ou ce que nous voyons dans les ruines avec nos yeux d'aujourd'hui, avec nos jugements, avec nos valeurs d'aujourd'hui. Ce qui, évidemment, ne correspond absolument pas aux valeurs de l'Antiquité.
Alors, c'est comme ça, Jean-Noël Robert, que vous commencez justement votre livre en disant attention au contresens, en fait.
Oui, oui, absolument.
Et alors, bon, qu'on fasse des contresens, nous qui connaissons pas trop l'histoire de loin, ça va. Mais il y a des historiens américains qui sont allés quand même très loin récemment, en comparant César à Pol Pot
et au génocide. Ah oui, pas seulement américains d'ailleurs, mais vous savez, je vais dédouaner un peu, excusez nos amis américains, ils ont un peu, je vais dire gentiment, la faiblesse de penser que l'Empire américain est la continuation directe de l'Empire romain.
C'est la nouvelle Rome.
Il n'y a rien eu entre les deux. Oui, certains le pensent un peu, ce qui peut excuser la chose, mais ce qui malheureusement nous donne parfois une vision un peu curieuse de l'histoire.
Oui, mais ça va très loin, parce que à la limite, vous dites d'ailleurs dans votre livre, si on prenait une machine à remonter le temps, et qu'on soit débarqué comme ça sur une place de Rome, ou dans la campagne, mais on serait complètement largué.
Ah oui, totalement.
Alors qu'on pense mais on se dit, mais ces gens avaient une république, il y avait un sénat, enfin ce sont des mots qui nous sont familiers.
Oui, effectivement.
Quoi. On n'aime pas qu'ils aient eu des esclaves, parce qu'on sait les drames de l'esclavage.
Bien entendu, alors que l'esclavage est un statut, n'a jamais été remis en cause dans l'Antiquité, jouait un rôle économique bien sûr très important, et un rôle social aussi d'ailleurs, et personne, pas même le christianisme à la fin de l'Empire, n'a remis en cause l'esclavage. Les chrétiens demandaient, ont œuvré après d'autres pour que les esclaves soient de mieux en mieux traités et considérés comme les hommes. Mmh. Je signale en passant que Sénèque, philosophe pas du tout chrétien, n'est-ce pas, du début de notre ère, philosophe romain, disait, écrivait à Lucilius, c'est un esclave, oui, mais c'est un homme. Donc l'idée vient déjà d'avant. Mais c'est tout, on n'a pas pour autant envisagé l'abolition de l'esclavage, parce que c'est une autre forme de pensée. Mmh. Vous savez, je prends une image simple. Il y a eu, dans l'histoire du Japon, évidemment, l'arrivée de peuples européens qui sont venus. Il y a eu
Vous faites référence aux Portugais au XVIe siècle. Bon. Imaginez, vous dites qu'on serait aussi étonné que.
Oui, imaginez, les Portugais ont abordé dans l'île de Kyushu. Imaginez un peu la tête qu'ils ont dû faire en voyant les costumes, les modes de vie. Et ils n'ont bien entendu rien compris. Ouais. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est très modestement arriver à essayer de rechercher une espèce d'archéologie de la mémoire, une archéologie de la vue, de la compréhension, pour qu'on se retrouve dans un état d'esprit qui permette de comprendre ce que ça veut dire. Nous verrons des exemples ce matin de choses que nous condamnons ou que nous approuvons dans les mœurs telles qu'elles sont décrites dans les textes latins, et qui sont à comprendre complètement différemment parce que les Romains nous ont aussi livré leur interprétation qui n'a rien à voir.
Eh bien voilà, donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde romain, vous le saurez ce matin grâce à Jean-Noël Robert. On parle de son livre « Rome, la gloire et la liberté ». C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres, et vous pouvez bien entendu nous joindre par le standard Europe 1, le 01 42 32 15 15 pour le téléphone, europe1.fr si vous êtes sur internet.
Et nous retrouvons Jacques Pradel et son invité Jean-Noël Robert qui nous présente son livre « Rome, la gloire et la liberté aux sources de l'identité européenne ». C'est ça l'angle particulier en fait. Et c'est aux éditions Les Belles Lettres.
Oui, et ça nous permet de visiter évidemment la vie quotidienne des Romains. Et on a compris avec ce que disait Jean-Noël Robert au début de l'émission que on est dans un monde qui est très éloigné quand même du nôtre, divisé entre les riches, les pauvres. Et on va beaucoup en parler évidemment ensemble. Et nous allons lancer cette émission en fanfare ou plutôt en trompette, grâce à Jean-Noël Robert d'abord. On va écouter et après on vous explique. Pas mal, hein, il faut du coffre, hein, Jean-Noël. Alors c'est vous, c'est un petit cadeau que vous nous offrez ce matin. On va entendre à plusieurs reprises dans cette émission. Alors j'allais dire des musiques d'époque. Et oui, et ça mérite un mot d'explication.
Alors évidemment, je ne vais pas avoir le front de vous dire qu'elles ont été enregistrées à l'époque d'Auguste. Mais voici ce qui se passe, c'est que finalement, nous disions que nous connaissions beaucoup de choses sur les Romains. Nous avons des textes, nous avons des pierres, mais nous n'avons aucun témoignage sonore. Et là aussi, nous serions très surpris si nous débarquions, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple sur le Forum à l'époque d'Auguste, par le bruit et les voix et les accents et les sonorités, et puis également les musiques, parce que nous n'avons rien là-dessus. Alors des archéologues et des musiciens italiens notamment, mais il y a aussi un groupe à la Sorbonne qui travaille sur la musique antique, je le dis tout de suite, mais des archéologues italiens ont travaillé sur ce que pouvait être cette musique dont nous n'avons absolument rien, ou presque. Alors évidemment, les musiques que vous entendrez, ce sont des reconstitutions, ce sont des hypothèses. Par contre, les instruments
fondés, j'imagine.
Oui, parce que les instruments ont été repris sur toutes les représentations, la colonne Trajane et autres, fabriqués avec, ça on connaît les matériaux, donc fabriqués un peu à l'identique, et puis on a vu ce que ça donnait comme son déjà. Ouais. Alors après, évidemment, bon, les sonorités qu'on entend, les rythmes, c'est peut-être pas tout à fait cela, mais ça donne quand même une petite idée.
Voilà, et surtout que dans cet environnement sonore, d'ailleurs on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce qu'on pense toujours aux termes romains, bon, même si il a fallu du temps pour les installer, pour qu'ils deviennent cette espèce d'organisme social finalement autour duquel...
Oui, c'est un complexe de loisirs.
Voilà, un complexe de loisirs, exactement. Et c'était, il paraît que l'ouverture était annoncée par des gongs dans la ville de Rome.
Absolument, ce sont les gongs qui annonçaient cela, et là les trompettes que nous avons entendu était censé reproduire peut-être l'ouverture de cérémonies officielles, alors ou un triomphe ou peut-être des élections, voilà.
Alors qu'est-ce qui, alors La meilleure façon de voir comment fonctionne une société, quelle est, c'est de prendre un enfant à la naissance, finalement, et de voir ce qu'il va devenir. C'est important, une naissance dans une famille romaine?
Alors, c'est très important, à condition qu'on soit dans un milieu, j'allais dire, assez aisé. Alors, je voudrais tout de suite brosser le tableau, parce que dans la société, effectivement, il y a d'abord deux statuts important, il y a les hommes libres et ceux qui ne le sont pas. On disait un petit mot des esclaves en commençant. Ouais. Les esclaves ne sont pas des hommes libres. Bon, et je laisse les affranchis de côté pour le moment.
En gros, quoi, il y a 5-6 millions de Romains, de citoyens et 50 millions de
dans l'Empire. Dans l'Empire, en tout, il y a 60 millions d'habitants dans l'Empire. Ouais. Il faut considérer que, je parle à l'époque, disons, du deuxième siècle de notre ère, hein, parce que, évidemment, tout cela change et évolue suivant les époques. Et on peut considérer que il y a dans l'Empire en général environ un quart de la population qui est servile. Mmh. En Italie, on estime que ça peut aller au-delà d'un tiers. Certains disent même quasiment la moitié. Ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas forcément impossible.
Ouais. D'accord. Donc c'est ce monde divisé entre hommes libres et...
Voilà. Et alors dans les hommes libres...
Tous ne sont pas des esclaves.
Non, mais dans les hommes libres, vous avez encore des statuts différents, si j'ose dire, qui sont essentiellement dus à l'origine sociale. Ouais. Vous avez les patriciens, des gens qui sont riches, des gens qui dominent finalement la scène politique.
Mais c'est une civilisation de l'argent, vous dites dans
votre livre. C'est une civilisation de l'argent, oui, on va y revenir. Et puis il y a les autres qui sont les pauvres. Ouais. Alors les riches, vous savez, ils représentent très peu de quelques pourcents, enfin c'est peut-être 10%, et encore des fortunes différentes dans ces 10%, qui sont ce qu'on appelle les patrons, ceux qui vont justement avoir une clientèle. Tous les autres, ce sont des pauvres. Alors, il y a encore plusieurs degrés de pauvres. Vous avez des gens qui n'ont rien du tout. Vous avez un grand nombre de SDF à Rome. Vous avez des gens qui n'ont même pas de logement. Le loyer coûte très cher, je le précise, n'est-ce pas, à Rome, à l'époque classique. Même pour avoir une petite chambre avec un malheureux brasero tout en haut d'une insula, eh bien,
ça vous coûte... Insula, c'est immeuble, hein, c'est ça.
Oui, c'est un petit peu... Vous savez, dans Astérix, on appelle ça les habitations latines mélangées.
HLM
à l'époque, voilà.
Mais n'empêche que c'est des constructions à plusieurs étages.
Effectivement, ça pouvait aller jusqu'à 5-6 étages, et quelquefois avec un escalier, un grand escalier, puisque parfois les animaux peuvent monter. On a le souvenir tragique d'une vache qui était montée jusqu'au troisième étage et qui s'était jetée dans le vide, vous voyez, donc c'est quand même...
Et donc ça coûte cher, les loyers sont chers parce qu'il y a surpopulation dans Rome.
Et bien entendu, parce que il y a quand même la Rome d'Auguste, alors il faut bien se rendre compte, elle fait quasiment 1 million d'habitants. Ouais. Plus ou moins epsilon, mais enfin 1 million d'habitants. C'est la ville la plus importante de tout l'Empire romain à la même époque, c'est Alexandrie qui en fait 500 000. Et vous avez Antioche qui en fait 200 000, vous avez quelques villes encore un peu importantes, mais une ville normale, j'allais dire, à l'époque d'Auguste, c'est une ville qui fait 20 000 habitants, et c'est déjà pas si mal, ou 30 000 habitants. Donc 1 million, c'est quand même phénoménal. Alors ça grouille de partout. Il faut imaginer Rome, qui commence à s'embellir un peu à l'époque d'Auguste, mais qui était une ville extrêmement sale, avec beaucoup de déchets, avec même les SDF qui meurent, on les laisse là sur le pavé un certain temps, on va les ramasser, on va les mettre à la décharge publique sur les esquilins. Ouais. Enfin, c'est une atmosphère très très fétide, très très putride. Vous avez des quartiers extrêmement sombres avec plein de petites ruelles. Vous savez le fameux quartier de Subur, là, il y avait beaucoup de lupanards à 3 sous, là où on pouvait aller se distraire. Pline l'Ancien nous dit que si on met toutes les venelles les unes au bout des autres, on obtient, je traduis avec nos kilomètres, on obtient 90 kilomètres. Donc ça représente un nombre de ruelles avec des maisons qui tombent plus ou moins en ruine, beaucoup d'incendies, ça s'effondre, enfin, des spéculations. Vraiment, nous avons affaire à un monde, c'est une fourmilière, n'est-ce pas? Ça grouille de partout. Alors évidemment, vous avez quand même quelques beaux quartiers, vous avez le Palatin, qui avant d'être le lieu de la résidence de l'empereur, est quand même le lieu où il y a toutes les belles demeures, des gens, les plus riches justement, les patriciens. Bon, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez serré.
Alors, dans un petit instant, on va pénétrer dans l'intimité d'une famille romaine.
Voilà, et on prendra donc forcément une famille d'un certain niveau social, parce que c'est là où nous avons les témoignages, forcément.
À suivre.
Et Et nous repartons pour Rome, pour l'Antiquité romaine. Voyage dans le temps, Jacques Pradel.
Alors, l'enfant est né et quelqu'un le pose par terre parce que c'est un garçon.
Oui, alors, ça peut être aussi une fille, d'ailleurs, mais seulement...
Oui, mais on ne la poserait pas par terre, si, quand même.
Si, si.
Ah bon, d'accord, j'ai cru que c'était une question de...
Bon, c'est surtout, effectivement, pour le garçon, parce que il y a une question d'héritage. Ouais. Vous savez, dans les bonnes familles, on a un souci. C'est d'avoir un héritier mâle qui puisse prendre la suite du nom et de la fortune, bien entendu.
Mmh.
Si on n'en a pas, on peut très bien adopter un enfant d'une autre famille.
Mmh.
Certains personnages célèbres, d'ailleurs, ont été adoptés. Alors, ils prennent le nom aussi de leur père adoptif, et ils sont considérés comme le fils de la famille. C'est important parce que ça veut dire que le lien du sang n'est pas absolument obligatoire. Il faut une reconnaissance.
Mmh.
D'ailleurs, quand le bébé est déposé au pied du père pour être soulevé de terre et reconnu, c'est un moment crucial parce que à ce moment-là, il n'existe pas encore. Il n'est rien. Et le père peut très bien ne pas le reconnaître. C'est-à-dire que s'il est difforme, s'il y a des filles, par exemple, un garçon l'intéresse, il veut avoir un garçon, la fille n'intéresse pas, on va noyer le bébé, on va l'exposer, comme l'on dit, sur un tas de fumier au coin de la rue, n'est-ce pas? N'importe qui pourra le ramasser et en faire ce qu'il veut, ou bien il va mourir là sur son tas de fumier. L'enfant, même issu d'une bonne famille, donc...
Peut-être comme ça. Soit tué, soit abandonné.
Absolument. Et d'ailleurs, on peut très bien être fils d'une bonne famille, un peu difforme. Mm-hmm. On va être récupéré sur le tas de fumier par une autre famille pauvre qui va vous élever, qui va vous éduquer un petit peu et vous revendre comme esclave pour se faire un peu d'argent. Donc vous voyez, le destin est...
Alors évidemment, nous, ça nous fait faire des loopings, j'ose dire, au 21e siècle, mais bon, c'est l'habitude.
Mais oui.
Et c'est comme ça que ça fonctionne à cette époque.
Il faut bien se rendre compte que la mortalité infantile est telle.
Ouais.
Hein, c'est 40%, c'est énorme. La mortalité infantile est telle que, bien évidemment, l'enfant n'a pas du tout la même importance.
Ouais, et vous dites qu'on attend 8 jours pour les filles et 9 jours pour les garçons avant de considérer que un citoyen ou un individu
avant
est
d'aller
né.
Le déclarer, hein, comme on le fait aujourd'hui à la
mairie. Mais on allait le déclarer à une autre mère de famille, non?
Non, on allait le déclarer à la cité pour que la naissance soit en quelque sorte officielle. Mmh. Et il y aura une deuxième déclaration à l'âge de la majorité, quand le jeune garçon deviendra citoyen, où là, il se fera inscrire sur les listes des citoyens, donc les listes électorales.
Alors, imaginons que l'enfant soit vraiment l'enfant, là, pour le coup, de notre Romain et de son épouse légitime, on va dire.
Oui.
Elle va vraisemblablement pas l'allaiter. Hein.
Non, ça dépend des périodes, mais effectivement, on considère que, surtout, le premier lait n'est pas bon pour un enfant. Et puis, surtout, cet enfant, c'est un véritable parcours du combattant, s'il est d'une bonne famille. Il va falloir qu'il soit élevé pour devenir un citoyen. Vous savez, un fils, c'est quelqu'un qui va assumer à la fois devenir citoyen, c'est-à-dire capable de procréer pour donner d'autres fils à la cité, et puis également capable de la défendre, tout au moins à l'époque républicaine.
Ouais. Alors, ils sont élevés un peu à la dure.
Il va être élevé vraiment à la dure. Donc, on va lui donner des nourrices.
Pardonnez-moi, d'accord. Donc, des nourrices pour l'élever, mais vous dites, à Rome, justement, la mode était aux poitrines plates, par exemple, pour les femmes de la haute société.
Oui, notamment à la République, à l'époque classique, effectivement, la poitrine plate est une... alors, pour éviter, on se met des bandes, n'est-ce pas, très très serrées pour aplatir la poitrine. Et puis, évidemment, l'enfant est nourri par d'autres femmes.
Alors, dites-moi, l'enfant, il ne peut pas bouger beaucoup. Hein.
Non, parce qu'il est saucissonné, n'est-ce pas, emmailloté complètement, les bras le long du corps, il ne bouge pas.
Il a un bras qui sort,
alors,
c'est
après,
ça
Après, dans un premier temps, on le démaillote une fois par jour pour un bain, plutôt froid, de façon à l'endurcir. Donc, il était bien connu que les bébés romains braillaient, n'est-ce pas, à l'heure du bain, c'était pas vraiment. Et puis alors, c'est le moment où la nourrice en profite pour remodeler le corps. Parce qu'il faut que le corps soit le mieux possible. Alors, on modèle bien le crâne, on tire sur les membres, on le prend par les pieds, on le secoue un peu pour bien étirer la colonne vertébrale. Bref, on le modèle de bout en bout. Même son sexe est modelé, n'est-ce pas? On tire sur le prépuce parce que les Romains étaient très très fiers d'avoir un prépuce et un beau prépuce.
Ouais.
Comme on se mettait nu assez souvent au terme et ailleurs, ça se voyait. Donc, il était quand même important d'avoir le corps optimum. On vous modèle les fesses pour qu'elles soient bien rondes. Enfin bref, il y a une image du corps, n'est-ce pas, qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres civilisations, mais qui est amusante. Alors vous imaginez l'heure du bain et du massage.
Alors cela dit, vous faites remarquer dans votre livre que tout le monde n'appliquait pas ça à la lettre
non plus,
parce qu'on a trouvé des textes d'ailleurs de gens qui se plaignaient que la tradition soit pas respectée.
Exactement. Voilà. Oui, donc bien entendu. entendu, il faut en prendre et en laisser. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose qui a pu exister. Et ça correspond à un idéal, à une
Et vous disiez plus tard, donc plus tard, on va continuer à lui bloquer un bras le long du corps.
Le bras gauche sera bloqué le long du corps et on va lui dégager peu à peu le bras droit. Alors là, il y a une raison religieuse, c'est tout simplement que la main droite, c'est la main qui est pure, c'est celle qui permet de faire les choses nobles, et la main gauche est celle qui est impure. Par exemple, quand on parlera du banquet, eh bien nous verrons qu'on ne prend la nourriture, on est allongé
sur le bras,
sur le
coude gauche.
Voilà. Mm-hmm. Et on ne prend la nourriture que de la main droite. Si l'enfant fait quelque chose comme cela avec sa main gauche, on le corrige tout de suite, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il prenne uniquement avec la main droite. Ouais. Alors, si vous me permettez, n'est-ce pas, bien que ce soit une heure de grande écoute, la main gauche était autorisée à quelques petites choses, mais disons, réprouvée au grand jour par la morale, n'est-ce pas? Vous voyez ce qu'on peut faire la nuit quand on est un adolescent. Alors ça, comme disait très joliment le poète Lucilius, c'est la main gauche qui doit recueillir les larmes de Priape.
Voyez. Ah, c'est bien dit, hein. Comme ça passe à cette heure-ci, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors cet enfant, donc, il est éduqué, il n'est pas encore éduqué, là, il vient de naître, il est, ce sont des nourrices qui s'occupent de lui, on s'occupe de son corps. À quel âge il commence à... Parce qu'il va apprendre non seulement l'alphabet, il va apprendre à lire et à écrire.
Bien entendu. Alors oui, c'est un petit peu le même âge que chez nous, c'est vers 6 ans, 6-7 ans. Alors, dans les familles riches, bien entendu, il y a des précepteurs, il y a des maîtres particuliers qui font parler l'enfant. Souvent, d'ailleurs, ils sont esclaves, donc d'origine grecque. Et l'enfant, disait Cicéron, apprend parfois à parler le grec avant le latin, mais enfin, bon, peu importe. Il apprend à parler et on peut l'emmener aussi à l'école, l'école primaire. Donc, ça va être 3-4 ans qui vont se passer où on apprend à lire, à écrire, à compter et à exercer sa mémoire aussi. On apprend des poésies.
Évidemment, oui. Et à lire à haute voix. Et alors, on sait que c'était la méthode syllabique qui a été choisie.
C'était la méthode. C'est comme ça. Nous avons
notre langue
est latine. Ouais, 80% de notre vocabulaire français est latin. Voilà. Bon, c'est pas de notre faute. C'est une langue syllabique. Donc, c'est pas.
Mais déjà, on sait qu'à l'époque, c'est la méthode qu'on avait retenue.
C'est la meilleure méthode qui marche. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que vous...
Alors, on va continuer à parler de l'Empire romain, des Romains, la vie quotidienne, les croyances également, et peut-être voir ensemble, puisque c'est quand même le propos de votre livre, quel est l'héritage que les Européens d'aujourd'hui peuvent revendiquer de cette époque-là, sans se tromper et sans faire de contresens. On y revient avec Jean-Noël Robert dans un tout petit instant, après les informations.
Nous cherchons ce matin à établir des liens entre la civilisation romaine et la civilisation européenne. Une Europe qui s'est forgée dans le berceau de la latinité, dans la continuité de l'humanisme romain. Si la société romaine ne ressemblait guère à la nôtre, la culture romaine, en revanche, a posé les fondements de la nôtre en Europe. Un livre nous permet une relecture de l'Antiquité romaine. On le doit à Jean-Noël Robert, qui est avec nous ce matin. Le livre est intitulé « Rome, la gloire et la liberté, aux sources de l'identité européenne ». C'est aux éditions Les Belles Lettres, Jacques Pradel.
Alors, pour un latiniste, vous ne pouviez pas vous permettre d'appeler le livre « Roman Way of Life », mais vous êtes lâché quand même, Jean-Noël Robert, parce que c'est le titre d'un de vos chapitres dans le livre. Et on revient à ces comparaisons entre l'American Way of Life et la Roman Way of Life. Alors, on découvre avec vous, là, et notamment avec la naissance et des enfants, vous êtes allé, on était un peu pressé par le temps, donc il faut quand même que vous preniez le temps de dire que pourquoi l'homme refuserait, c'est-à-dire que si c'était un enfant illégitime, alors illégitime, c'est-à-dire que un père de famille romain, et j'emploie le terme exprès bien sûr, peut aussi se permettre des privautés sexuelles avec des esclaves, hommes ou femmes d'ailleurs, mais si femmes, ces relations peuvent donner lieu à des naissances. Et là, il peut encore ou pas accepter l'enfant.
Alors, effectivement, mais quand l'enfant n'est pas officiel, si je puis dire, souvent il est forcément né d'une esclave. Et à ce moment-là, il y a, on le sait, dans les grandes maisons, des enfants qui sont ce qu'on appelle les enfants nés à la maison. Ce sont les enfants nés des esclaves, mais dont le le maître et le père. Ouais. Et souvent, ils bénéficient de la même attention, de la même bienveillance, de l'affection, de l'intérêt, je dirais plutôt, du père. Et quelquefois, le père leur fait faire, comme à ses propres enfants légitimes, des études, ou au moins un minimum.
Alors, vous, à propos des études, ça vous a amusé de savoir comment on éduquait les enfants, et surtout même les devoirs qu'on leur donnait.
Oui, alors,
vous avez retrouvé des devoirs d'enfants romains.
C'est-à-dire qu'on a des réteurs qui nous expliquent ça pour, par exemple, pour le niveau, j'allais dire, universitaire, pour dire les choses.
Oui,
car, effectivement, quand un enfant va à l'école primaire, bon, ça, c'est, je dis l'école primaire, c'est une façon de parler, on a dit tout à l'heure ce qu'il y apprenait.
Lire, écrire, compter.
Voilà, et puis un peu la mémoire, un petit peu. Bon. Et ensuite, il y a ce qui correspondrait à notre collège, en quelque sorte, disons à partir de 11-12 ans jusque vers 16 ans, le grammairien, c'est ainsi qu'on appelait le maître, n'est-ce pas, qui apprenait à approfondir, bien sûr, la langue, mais qui apprenait, on apprenait aussi de l'histoire, de la géographie, un petit peu, on apprenait une langue étrangère, c'est-à-dire le grec à l'époque, n'est-ce pas, qui était une langue vivante, bien entendu, et puis, bon, on se formait avec un minimum de connaissances. Mais les enfants de bonne famille, qui devaient être promis le lendemain, enfin, dans les années à venir, à diriger le pays, quand même, avoir un rôle important, eh bien, devaient poursuivre. Mmh. Et alors, il y avait un enseignement de rhétorique et de philosophie. Ce sont des maîtres grecs, généralement, souvent d'ailleurs des esclaves, qui étaient professeurs. Vous savez, les professeurs, votre serviteur eût été un esclave dans l'Antiquité. Hein. Et ils étaient très bien. J'en profite pour dire, entre parenthèses, qu'il ne faut pas calquer sur le mot d'esclave les traitements, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas dans les champs
de coton du sud des
États-Unis, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'il y avait des esclaves qui pouvaient avoir une vie dure et parfois être maltraités. Ça dépendait du maître, mais tous les médecins, les architectes, les professeurs étaient des esclaves, et ils avaient souvent un statut, une reconnaissance. On avait même fait construire pour un médecin grec célèbre une clinique aux frais de l'État, au forum, enfin, c'est vous dire que tous les esclaves n'étaient pas forcément considérés comme du menu frottin.
Pour revenir à notre éducation de
jeune romain, il va apprendre à faire des discours, parce que finalement, c'est un enseignement littéraire, dire. Les sciences sont très peu et très mal enseignées et vécues à Rome, donc on apprend. Alors, par exemple, nous avons des sujets, l'orateur, c'est donc un maître, vous imaginez la salle, alors il est sur une cathèdre, n'est-ce pas, sur une chaire, et les élèves ont préparé des sujets, et ils viennent faire leur discours, ils viennent s'entraîner, le maître corrige, et puis ensuite il donne un corrigé lui-même, et il y avait des spectateurs qui étaient là, c'était public, et les gens venaient pour écouter les meilleurs professeurs, justement, faire le corriger, c'est intéressant. Alors, quel genre de discours ? Bien, par exemple, vous aviez ce sujet-là. Imaginez une loi qui dit que une femme qui a été abusée par un citoyen romain peut soit l'épouser, soit exiger qu'il soit mis à mort. Un citoyen romain abuse dans la même nuit de deux femmes, l'une demande sa mise à mort, l'autre veut l'épouser. Plaider.
Vous voyez le sujet. Et on est sur des cas concrets.
Mais en même temps un petit peu irréaliste
Bien entendu, comme par
exemple cet autre sujet où on imagine des jeunes qui sont sur une plage et qui négocient avec un pêcheur avant qu'il parte donc sur son bateau, qui négocie le contenu de sa pêche. Alors un prix forfaitaire donc est convenu. Le pêcheur part en mer, il revient et au lieu de poisson, il a pêché comme par miracle de l'or. Bon. Et évidemment, le pêcheur dit que le contrat ne tient plus parce que l'or vaut beaucoup plus que ce qu'il a reçu. Ouais. Et les jeunes disent, on avait payé un prix forfaitaire, s'il n'y avait rien eu dans le filet, c'était tant pis pour nous. Là, c'est de l'or, c'est tant mieux pour nous. Okay. Plaider.
Ouais. Alors, cela dit, vous dites aussi qu'on apprend à poser sa voix, parce que c'est l'art oratoire.
Absolument.
Comme vous
le disiez. On apprend à travailler le souffle, on apprend à poser sa voix, à la travailler, à faire des effets. Ouais. Évidemment, il y a des accents qui sont très importants. Vous savez, il faut entendre cette langue latine. Je vais pas me livrer ici à un exercice, mais évidemment.
Nous on est pour, allez-y.
Comme ça,
on comprendra exactement ce que vous avez en tête.
Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas, moi, le premier vers de l'Énéide, n'est-ce pas? Bon, le latiniste aujourd'hui, il va lire Arma, Virumque Cano, Quirpimus, etc. Bon, je chante les armes et le héros qui est le premier. Il s'agit d'Énée, bien sûr. Eh bien, avec les accents instruments et ça donne quelque chose de très musical. Quelque chose comme ça, donc on comprend même plus à la limite, n'est-ce pas? Bien vous sûr. Avez une sorte de musique.
Mais on imagine que quand le latin était une langue vivante, on l'a parlé comme ça.
Une langue accentuée, une langue musicale, en roulant les R pour autant que l'on sache, enfin, et sans doute d'autres choses que je n'ai pas pu faire parce qu'on les ignore, n'est-ce pas? Encore une fois, il nous manque d'avoir quelques micros. Europe 1 n'avait pas de studio sur le forum,
pour rester, c'était bien dommage. Pour rester encore un tout petit instant sur l'éducation, il y a aussi une éducation physique, pour le coup, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une fonction qui est de défendre.
Ah, voilà.
Éventuellement Rome, donc il y a beaucoup de gymnastique.
Alors sous la République, quand avant l'armée de métier, effectivement, le citoyen devait pouvoir défendre sa patrie, et donc on s'entraînait. Alors vous savez, à l'origine, il n'y avait pas toutes ces écoles et autres qui sont venues à partir du 2e siècle avant notre ère surtout. Ouais. C'était au père de famille justement à partir de l'âge de 7 ans d'enseigner son fils et de lui apprendre à la fois alors à travers c'est le Tibre, le fleuve, à la nage, était comme hiver pour s'endurcir, à courir, à lancer le javelot, bref, à faire des exercices physiques, mais utiles. Pas les Romains méprisaient les exercices de gymnase à la grecque, là, vous savez, où tous les gamins se promenaient nus et faisaient des jeux divers, des exercices.
Des cabrioles.
Donc ça, c'était évidemment très méprisé, parce que ce n'est pas que les Romains aient été pudibonds. Mais ils étaient pudiques. Le corps ne se montrait pas nu sans bonne raison, si j'ose dire. Et surtout pas quand il s'agissait du service de l'État. Quand il s'agissait d'apprendre à devenir un citoyen, le citoyen, c'est quelqu'un qui a un corps apprêté, un corps travaillé. Vous voyez, dès le bébé, on l'a vu dès la première enfance. Corps maîtrisé. Et donc, un corps vêtu, bien vêtu, avec la toge du citoyen ou avec l'armure. Et ça, il est dans ses fonctions de citoyen, sorte de fonction officielle. Après, qu'on soit dans le loisir, quand on va au bain, quand on va au terme, on se met nu, il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas prudes. Mais ils sont quand même pudiques, si vous voulez. Et ça, c'est important de bien comprendre ce rapport au corps, en fonction de ce que l'on fait.
Alors, dans votre livre, Jean-Noël Robert, vous nous décrivez ce que, j'allais dire, on a l'habitude de dire, nous, la cellule familiale. C'est une grande cellule, parce qu'il y a le pater familias. Alors, le pater familias, c'est en fait le père le plus âgé. Il peut y avoir plusieurs générations sous le même toit.
Effectivement, puisque même s'ils ne sont pas sous le même toit, ce qui arrive aussi, eh bien c'est quand même le plus vieux qui reste le maître. C'est-à-dire que le pater familias peut très bien donner des ordres à son fils qui a 30 ans ou 35 ans ou et qui est marié, qui a lui-même des enfants. À partir du moment où il est en vie, c'est lui que l'on doit respecter. Et en général, on le fait, même si on grogne, parce qu'il y a l'héritage. c'est important. Alors, je tiens quand même à dire que l'espérance de vie n'est quand même pas très grande, n'est-ce pas? Elle est en moyenne, on peut difficilement la dire. Elle est en moyenne d'une trentaine d'années, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, suivant les époques.
Avec les exceptions qui confirment les règles.
Ça veut dire que
règles,
je vous donne deux, trois chiffres, histoire de quand même se bien comprendre les choses. À l'époque classique, à l'époque d'Auguste, 36% de la population a moins de 15 ans. 36%. C'est donc une population jeune. Moins de 10% atteignent 60 ans. Et donc, ça montre bien quand même le rapport, et on peut dire que le nombre de centenaires, je dis pas qu'il n'existe pas, mais enfin c'est vraiment l'exception. Hein. Donc le respect de la vieillesse, le respect pour les gens âgés, mais d'un autre côté, il y en a pas beaucoup non plus.
Alors on va continuer à parler évidemment de continuer cette peinture de la société du monde romain. Il faudra parler tout à l'heure de la condition de la femme et des mariages. Vous avez souvent des mariages arrangés, comme vous dites, mais on peut faire peut-être une petite parenthèse et imaginer qu'on arrive à l'heure. Alors, est-ce que c'est l'heure de midi ou est-ce que c'est le soir qu'on se réunissait pour manger ensemble?
J'en profite, effectivement, avant de vous donner l'heure, pour vous dire que là aussi, on va tuer une vieille image, l'image des orgies romaines. Si on en a parlé, justement, c'est parce qu'elles sont exceptionnelles, elles concernent quelques personnes. D'abord, ça coûte très cher. Je pourrais vous donner des prix tout à l'heure si vous voulez aller faire vos courses au marché du Forum Boarium. Je vous donnerai quelques indications. négociation de prix. Ouais. Mais le romain n'est pas du tout un baffreur, si je puis me permettre. Ouais. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui mange une fois par jour. Le matin au petit déjeuner, rien du tout, quelques noix, vraiment peu de choses, éventuellement un verre de vin. À midi, c'est pris sur le pouce, là aussi une nourriture qui est froide. Vous savez, on n'a pas les commodités pour faire chauffer non plus, comme à l'époque. Ouais. Et puis, alors, le seul repas, c'est en rentrant des termes, c'est vers 16h, n'est-ce pas ? C'est donc en fin de journée, fin d'après-midi, on va dire. Voilà. Et généralement, c'est pas non plus une orgie, hein, sauf pour quelques-uns. Mais ça peut être une fête. Alors, écoutons cette musique de festin.
Voilà, couchez-vous à table, je vous en prie, voilà. Sur le coup de gauche, donc j'ai bien retenu ma leçon de tout à l'heure.
Alors, justement, rentrons un peu dans le détail, parce que c'est intéressant, aussi bien de ce qu'on mange que de la façon de le manger. vous savez, je prends une famille riche, forcément, là nous avons entendu une musique, parce que d'un banquet, n'est-ce pas, parce qu'un festin, c'est exceptionnel, mais c'est une grande cérémonie, si je puis dire, ça a presque une valeur religieuse.
Ouais. Et puis vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il y en a qui sont debout, tout le monde n'est pas couché à table.
C'est un spectacle total, et on représente, il y a des poètes qui peuvent venir, il y a des danseurs, vous avez entendu cette musique qui est effectivement un peu dionysiaque. Oui. On célèbre Bacchus, on célèbre le vin.
Mais vous dites même qu'il y en a qui essayent de pas se faire inviter à ce genre de repas parce qu'ils vont, ils ont pas envie de se taper deux heures de poésie et des
alors quelquefois
et de la musique. Ils voudraient passer aux choses sérieuses, bien manger et faire la cour un peu cour au maître.
Ce n'est pas toujours le cas effectivement.
Il y a pas mal de picassiettes.
Alors tenez, vous savez, alors même dans ces repas habituel au quotidien, même chez les riches, la nourriture est assez modeste. Mais lors des festins, ça peut être différent. Je vous donne un menu de banquet.
Allez,
de banquet. Trois parties dans un repas. C'est pas, il y a ce qu'on, nous, on appellerait ça les hors d'œuvre, le plat principal et le dessert. En réalité, vous allez voir qu'il y a de tout dans chaque, finalement. Alors, voici par exemple un menu de banquet sous la République, offert par les pontifes. En entrée, vous aviez, je vous donne la liste, coquillages avec oursins, huîtres, palourdes, des grives, poules grasses sur lit d'asperges, terrines d'huîtres et de palourdes, bec fixe, ce sont des petits oiseaux, filets de chevreuil et sanglier, pâté de volaille grasse, ça c'est rien que pour les entrées, n'est-ce pas ?
D'accord, bon.
Alors après, les plats principaux, vous avez les tétines de truie, qui peuvent être farcies ou non,
très appréciées.
C'est très important les tétines de truie.
Mais alors j'ai découvert en lisant votre livre justement qu'il fallait, enfin certains disaient, je veux des tétines de truie qui n'ont pas allaité.
Effectivement, pour qu'elles soient plus moelleuses, plus goûteuses, donc il fallait tuer la truie dès qu'elle avait mis bas, mais avant qu'elle allaiter.
Voilà. Oui, mais il y en a d'autres qui disaient non, il faut absolument que les tétines aient allaité parce que ça donnait plus de goût, je ne sais quoi.
Tétines de truie, hure de sanglier, plat de poisson, canard, sarcelle bouillie, lièvre et rôti de volaille.
D'accord.
Bon, et puis pour les desserts, ça c'est plus pauvre, c'est crème de farine et biscuits, n'est-ce pas ? Ça paraît plus modeste. Remarquez que quand on lit certains menus de banquet de la Troisième République,
On n'est pas loin, effectivement, ou sous les rois de France aussi.
Et puis il y a la boisson, bien évidemment.
Et c'était souvent quand même, encore un mot là-dessus, sucré-salé. Hein. Vous disiez beaucoup le sucré-salé, les Romains.
On peut dire un mot du goût romain, très très différent aussi de ce qu'on imagine, n'est-ce pas ? C'est un mélange de sucré et de salé. Et c'est les Romains préfèrent les consistances bouillies, plutôt que molles, on va dire, plutôt que les consistances craquantes. Vous savez qu'il y a le bouilli, il y a le rôti, il y a le frit. Oui. Et en fait, d'abord parce que les viandes sont plus dures, ils ne sont pas traités comme aujourd'hui, on est obligé de faire bouillir d'abord, même si après on fait rôtir. Alors, ça donne évidemment un aliment plus fade. Et on utilise beaucoup d'épices. Et c'est ce qui fait la différence. Beaucoup d'épices, et notamment la fameuse sauce garum, qui ressemble au fond à ce qu'est le Nguyen Mam au Vietnam, et qui correspond à une sauce, il y a différentes qualités, mais enfin on va dire d'entrailles de poisson décomposées, conservées dans la saumure, donc quelque chose de très fort, qui donne effectivement, qui relève le goût, c'est normal.
Ouais. Alors tout ça donne soif, et alors là aussi, si on débarquait dans un banquet romain, il n'est pas sûr qu'on apprécie, alors que, attendez, excusez-moi, vous dites, évidemment, le commun, les pauvres ont pas du vin exceptionnel.
Non, bah, c'est plutôt de la piquette, c'est du vinaigre. Oui, absolument. Les soldats aussi, d'ailleurs.
Mais alors, dans la haute société, alors là.
Ah, on a des grands crus. On a des grands crus et on a des années très célèbres. Si jamais vous dégotez une amphore de l'an 121, c'est-à-dire de l'an d'Opimius, n'est-ce pas, une amphore du consulat d'Opimius, c'était vraiment une année extraordinaire. C'est un 59 Château Pétrus, vous voyez.
Mais comment on arrivait à garder sans plus de 100 ans,
vous dites ? Bien justement, c'est que là encore, quand vous débouchez l'amphore en question, ça ne ressemble pas du tout au vin que nous connaissons et nous serions bien incapables de le boire. D'abord, c'est très alcoolisé. C'est très alcoolisé. On nous dit même qu'une bonne amphore de Falerne, un bon Falerne, si on l'approche d'une flamme, il prend feu. Donc déjà, c'est très. S'il fait que on coupait toujours ce vin avec de l'eau,
chaude,
celui l'eau chaude et de l'eau de mer, si possible, de la vieille eau de mer chaude, du eau de mer gardée 2 ou 3 ans en amphore. Il n'y a rien de tel pour vous relever un bon cru de Falerne. Bon, vous voyez, ce sera imbuvable pour nous, n'est-ce pas? Absolument imbuvable. Et ce cru de Falerne, donc, en plus de ça, s'épaissit avec. Il devient comme une sorte de miel. C'est pour ça aussi qu'il faut le délayer.
Il faut le délayer.
C'est bien connu à Rome que celui qui boit son vin pur, c'est l'ivrogne. Un ivrogne boit le vin pur, n'est-ce pas ? Parce que c'est évidemment trop alcoolisé. Alors, si j'ajoute que pour la bonne bouche, on parfume ses vins, soit au miel, soit avec des aromates divers, ou des plantes, vous imaginez un petit peu le goût que ça devait avoir. Et j'ajouterais pour terminer que quand il a été fabriqué, il a été gardé dans des grandes amphores qui, pour être cuites, évidemment, étaient difficiles à enfourner. Donc, pour éviter qu'elles soient poreuses, on les enduisait de poids.
D'accord.
Donc, cette poix donne un goût de raisiné, n'est-ce pas, au vin. Alors, vous ajoutez le goût de raisiné, le goût du poivre, par exemple, du vin au poivre, très très célèbre, du vin, le goût du poivre, tout cela mélangé avec un peu de vieille eau de mer chaude, n'est-ce pas, et vous avez une petite idée de ce que peut être un grand vin de banquet dans l'Antiquité. Vous voyez que nous sommes très très loin.
Non, mais c'est un bon exemple, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose dans le domaine des idées, quoi.
Mais oui, finalement. Mais bien entendu, il faut revoir les choses concrètement. Ouais. Tiens, puisqu'on parlait de cuisine, je vous ai apporté une ou deux recettes. Alors, je m'adresse aux ménagères qui nous écoutent, il est bientôt 10h30.
10h24, vous pouvez sortir après l'émission pour aller faire les
donc,
courses.
Voilà, donc mesdames à vos fourneaux, je vous ai noté 2-3 petites choses simples, parce qu'il y a des recettes très compliquées. Ouais. Vous savez, à Rome, souvent, la base est la même. Elle est très simple, les gens pauvres mangent rien, quelques poireaux, quelques choux, quelques légumes, et c'est déjà pas si mal, les fèves, bien entendu. Ouais. Bon, mais dès qu'on veut faire un petit peu de cuisine, ce sont les aromates, les sauces qui, évidemment, vont modifier, surtout quand c'est bouilli. Ouais. Alors, par exemple, ce jambon. Du jambon cuit. Vous prenez un gros jambonneau, un jambon cuit, ou s'il n'est pas cuit, vous le faites cuire à l'eau, tout simplement, comme bouillir, comme dans l'Antiquité. Vous enlevez ensuite la couenne, vous incisez la viande à différents endroits en carré, de façon à faire des sortes de plaies dans la viande, et vous mettez dedans du miel et des figues fraîches.
D'accord,
Puis ensuite, vous faites une pâte, on dirait aujourd'hui une pâte brisée, avec de la farine, de l'eau, et vous enrobez, vous faites votre jambon en croûte, n'est-ce pas, et il va finir de cuire cette fois-ci au four, le temps que la pâte soit cuite, avec donc le miel avec et les figues qui vont parfumer la viande à l'intérieur.
C'est faisable,
c'est pas très difficile.
Il y a quelques restaurants, je crois, encore.
Oui, ça existe, mais
ici ou là, qui essayent.
Voilà, mais c'est difficile parce que le goût est quand même très différent, donc on peut pas respecter. Des poireaux à l'huile. Vous savez, Néron, lui, se gavait de poireaux à l'huile. On l'appelait le porophage. C'était bon pour sa voix. Bah oui, parce qu'il se prenait pour un grand chanteur. Donc, il mangeait beaucoup de poireaux à l'huile. Et donc, vous faites cuire vos poireaux dans l'eau. Mais là encore, l'image de poireau n'est pas la même que la nôtre. Nous prenons le poireau, la partie blanche, si j'ose dire, et les feuilles vertes. Les anciens laissaient le poireau dans la terre et ne coupaient que les feuilles vertes qui dépassaient. Et ça repoussait. Donc vous voyez, déjà, c'était pas tout à fait la même chose. Mais enfin bref, vous les faites cuire dans de l'eau, avec un peu d'huile et un peu de sel, ajouté dans l'eau. Vous les égouttez et vous les assaisonnez avec de l'huile, du vin Et alors le garum, cette fameuse sauce que vous remplacez par du nourkmam.
D'accord, bah oui, et comme ça on a une
ça
petite...
Ça vous donne une petite voilà, idée une petite d'un idée, goût simple pour de vulgaires poireaux, poireaux à l'huile, voilà. Bon. Et c'est ainsi qu'on j'en ai d'autres, enfin bon.
Alors cela dit, donc ça c'était des repas, les repas dont on parle et qu'on a dans notre imaginaire.
Hein, oui.
Couché à table, faisant vraiment... Bon, alors quand on parle d'orgie, c'est autant alimentaire que sexuel, tout ça c'est vraiment... c'est rare, quoi, en fait.
Oui, et alors, je vais même ajouter quelque chose d'autre là-dessus. Imaginons un banquet, justement, un grand banquet chez les riches. Ce n'est pas simplement comme nous, on est autour de la table, on va bien manger, bien boire, discuter. Ce n'est pas seulement ça, c'est presque une cérémonie sacrée. La salle à manger elle-même est une pièce sacrée. Elle est un peu chez un riche. Néron avait fait construire une salle à manger de ce genre, par exemple, dans sa fameuse maison dorée à Rome. Mais chez les riches, c'était la même chose. Et le roman de Pétrone, évidemment, le Satyricon nous en parle. Je vous conseille vivement la lecture. Nous avons une salle à manger qui représente le monde. C'est-à-dire que le plafond de la salle à manger symbolise le ciel, la table symbolise la terre, et le sol, en mosaïque généralement, symbolise le monde des morts.
D'accord.
Et alors, le maître de maison, le maître de banquet, est en même temps, pour un instant, en quelque sorte, Jupiter soi-même. Il est le maître de l'univers, il va ordonner cette cérémonie. Mmh. On va faire tomber des pétales de fleurs depuis les caissons du plafond, n'est-ce pas, pour purifier. On va ouvrir les portes de la salle à manger, on ne franchira la porte que du pied droit, bien évidemment, sans fouler le seuil lui-même. Droit et pas gauche, nous avons dit tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on va prendre les statues, les lares, les divinités familiales, et on va les promener dans la salle à manger, et chaque convive va soit les embrasser, soit les honorer, et on va leur faire une libation. Donc, il y a ce lien sacré, et on ne prononce pas certains mots pendant le repas, on ne fait pas certains gestes. Par exemple, on ne parle pas d'incendie, parce que ça porte malheur, on aurait trop peur que ça flambe, il y avait beaucoup d'incendies à Rome, on ne parle pas de certains sujets. Enfin, il y a tout un tas de tabous qui sont liés à la table. Et ça, c'est outre celui de prendre, évidemment, la nourriture avec la main droite. Tout cela est très important. Et si on fait tomber quelque chose par terre, eh bien, on ne le ramasse pas. Parce que c'est pour les morts, ça appartient au monde des morts. Après le repas, c'est balayé, et dans les temps anciens, les esclaves soulevaient ces détritus du sol pour franchir le seuil de la salle à manger et aller le porter sur la tombe des morts, c'est ce qui leur revient. Alors je vais prendre un exemple justement de mauvaise lecture. Quand on lit le roman de Pétrone, il y a l'histoire d'un esclave qui arrive avec un de ses plats merveilleux, enfin bon, très symbolique, et puis patatras, il laisse tout tomber par terre. Et il se précipite pour essayer de ramasser. Immédiatement, Trimalchion, le maître de maison, ordonne qu'il soit fouetté. Alors on se dit, regardez cet affranchi parvenu, devenu riche, qui veut jouer les maîtres, il est horrible, cet esclave était maladroit, on veut le battre. Mais pas du tout. Pas du tout. Simplement, la nourriture tombée au sol revient aux morts. Si on enlève aux morts en la ramassant cette nourriture, eh bien, on va s'attirer effectivement les foudres de
d'où la réaction.
Donc, on ne ramasse pas un plat.
Alors, encore un mot sur ces banquets, quand même, Jean-Noël Robert, c'est que moi, j'ai découvert ça effectivement en vous lisant. Je savais pas. Il y en a quand même qui sont assez. Alors, on aurait tendance à dire avec nos lunettes d'aujourd'hui, il y a quand même des pervers. Il y a quand même des salauds. Il y a quand même des gens.
Ou n'y en a-t-il pas.
Ils invitent leurs pauvres à ces banquets, donc les autres sont super contents parce que ils vont pouvoir enfin aller à la table du maître. Et alors là, non, les plats leur passent sous le nez. Certains leur font présenter, vous dites d'abord, pour bien les faire saliver. Et ensuite, c'est le maître et ses amis un peu huppés qui mangent. Et éventuellement, on donne, mais une nourriture inférieure à certaines personnes. Donc en fait, on les humilie volontairement.
Ah, on les humilie. Ben oui, parce que s'ils sont pauvres, ils ont glané une invitation, ils ont été soit au terme, soit même dans les latrines. Si vous voyez, vous imaginez comme c'est public, vous avez.
Vous dites qu'il y a des gens dont c'était presque le métier d'aller discuter pour que.
On appelle ça les parasites. Ils essayent. Oui. Alors ils font force compliment aux gens riches. Ils sont là dès qu'ils jouent à la balle au terme. On leur ramasse la balle. On les complimente. On leur dit qu'ils sont beaux alors qu'ils sont vieux et moches. Et puis on espère une invitation à dîner. Il faut les excuser aussi en comprenant la difficulté qu'il y avait de vivre pour les pauvres, ouais, qui ne mangeaient pas tous les jours et en tout cas pas tous les jours à leur faim. Ouais. Donc c'est quand même très difficile et si on peut se faire inviter, c'est bien. Mais alors à ce moment-là, évidemment, il faut s'attendre à être traité selon son rang, si j'ose dire.
Alors voilà, et donc là, vous confirmez, vous avez trouvé...
Au bout des tables, on sera vraiment dans les petites... on n'aura pas forcément la même chose. Alors, les anecdotes auxquelles vous faisiez allusion, ça c'est les cas extrêmes, c'est des empereurs à moitié fous, comme la Gabale par exemple. Ouais. Comme il faut un nombre impair de convives. Il y avait un proverbe latin qui disait « 3 convives repas, 9 convives fracas ». Donc, de toute façon, c'est 3, 5, 7, 9, bon. Ouais. Alors, il invitait toujours, quand il était seul, 8 autres convives.
Ouais.
Et c'est par exemple, alors il s'amusait à inviter 8 chauves ou 8 boiteux. et quelquefois, alors on faisait servir, quelquefois il leur montrait simplement aussi, vous savez, la nourriture sur des tableaux extrêmement bien peint,
Il y en a même qui faisaient réaliser des sortes de maquettes en cire, vous dites.
En cire, ou alors en cire, les aliments, effectivement. Ouais. Ou bien alors, on faisait, par exemple, tout. Ouais. Les cuisiniers étaient très, très forts. Alors, par exemple, avec de la citrouille.
Il y a des repas, d'ailleurs, il y a eu tout un repas à la citrouille dont vous parlez dans le livre.
Simplement, tout est sculpté, ça a la forme de ce qu'on doit manger, ça en a la couleur, il y a des coloris.
C'est le goût de citrouille.
C'est toujours de la citrouille.
Ils sont fous, ces Romains, quand même. Bon, on va se retrouver avec vous, Jean-Noël Robert. On va continuer à parler de cette société romaine. On n'a pas encore parlé du mariage. On a dit très rapidement que c'était souvent des mariages arrangés. Mais on va parler de mariage, on va parler d'amour, on va parler de sexualité aussi. Mais avec, j'allais dire, les bonnes lunettes, c'est-à-dire de regarder ce monde tel qu'il était, nous imaginons qu'il ait fonctionné. 01 42 32 15 15. Le standard d'Europe 1 à votre disposition pour vos questions ou vos réactions à ce que nous dit ce matin Jean-Noël Robert sur ce monde romain et l'héritage qu'il nous a éventuellement légué à nous, Européens d'aujourd'hui. Europe1.fr, bien sûr, ça c'est l'adresse internet.
Rome, la gloire et la liberté, c'est aux éditions Les Belles Lettres et nous recevons l'auteur de ce livre, Jean-Noël Robert, Jacques Pradel.
Oui, alors quelque part dans ce livre, Jean-Noël Robert, vous dites que l'Empire romain, les Romains, on va dire pour aller vite, ont apporté quand même à l'extérieur, et ça on s'expliquera là-dessus tout à l'heure, parce que vous dites c'est pas de l'impérialisme au sens d'aujourd'hui, c'est pas du colonialisme au sens d'aujourd'hui, on peut pas parler comme ça, mais ils ont apporté aussi à d'autres citoyens, du reste du monde, la loi. La loi pour remplacer la force. Mais en même temps, alors, d'après la loi, la femme est, elle, elle va rester une éternelle mineure dans ce monde romain.
Oui, absolument. La femme n'a jamais eu de statut.
Ouais.
Elle appartient, en quelque sorte, à son père, d'abord, elle appartient ensuite à son mari. Alors il y a des formes de mariage qui sont diverses, qui peuvent faire que l'autorité du père soit transmise au mari, ou bien le père garde cette autorité et en quelque sorte la délègue simplement au mari, on va dire cela comme ça.
Et qui décide, qui choisit? Mais ce sont des mariages arrangés.
Ce sont bien sûr, parce que encore une fois, il faut bien se rendre compte que seulement environ un tiers des Romains, des citoyens devaient se marier. Pour les autres, il n'y a pas de transmission d'héritage, il n'y a pas d'intérêt particulier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivaient pas en couple, mais enfin, ou qu'il n'y avait pas d'entente comme ça entre eux.
Il n'y avait pas une institution du mariage.
C'est une affaire privée, privée, et souvent, ce sont deux familles qui vont arranger déjà des fiançailles, alors que la fille a 4 ans, 5 ans, même moins que ça, et que le gamin en a une dizaine, peut-être. On attendra évidemment un peu pour les marier, mais les fiançailles établissent déjà un premier contrat, j'allais dire, entre les familles. Et il est donc rare, ça ne veut pas dire dire que ça ne soit pas arrivé. Mais il est donc rare que l'amour se mêle évidemment de la question.
Ouais. Oh, il y a une ou deux petites histoires d'amour
que
vous racontez dans votre livre.
Je sens que vous avez envie que je vous raconte ça.
De tout à l'heure, si vous voulez, hein, mais bon.
Non, on va.
Faut pas passer à côté d'une belle histoire.
Je vais vous en raconter deux. Une qui est politique, si j'ose dire, et où l'amour est venu par surcroît, et l'autre qui est une très belle histoire d'amour. Alors, en deux mots, la première, c'est celle de Pompée. Pompée s'est marié 5 fois, comme Sylla, comme d'autres, parce que quand au gré des alliances, et politiques, évidemment. Alors, par exemple, c'est Sylla qui lui a mis le pied à l'étrier, et il a voulu le faire entrer dans sa famille, et pour ça, il lui fait épouser une certaine Émilia, mais il était déjà marié.
D'accord.
Donc, ce n'est pas grave, on va répudier, n'est-ce pas, la première femme. La mère de cette première femme s'est d'ailleurs suicidée de désespoir, mais enfin, ça c'est pour l'anecdote. Alors, Émilia est donc mariée à Pompée, la voilà enceinte, et on l'a séparée de son époux précédent. Pour pouvoir réaliser ce mariage. Puis ensuite, il y aura, après rupture de cette union, une autre épouse qui sera convaincue d'infidélité, donc répudiée. Puis il y en aura une quatrième.
Il faut toujours un prétexte, quand même.
Ah oui, il faut quand même toujours un prétexte. Et alors, cette quatrième, c'est aussi une alliance politique, c'est Julia. Julia, c'est la fille de César. Lorsque Pompée a fait alliance politique à Sicque Crassus avec César, pour concrétiser cette alliance, César a donné sa fille à Pompée. Bon, ils avaient plus de 20 ans de différence d'âge. Mais là n'est pas l'important.
D'accord.
Et alors là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'amour est venu par surcroît. Et Julia était absolument amoureuse de Pompée. Il faut dire que Pompée avait, paraît-il, cet œil larmoyant qui fait que personne ne lui résiste dès qu'il vous regarde. Bon, enfin bref, je ne sais si c'est l'œil de Pompée. Toujours est-il que Julia l'a épousée. Et alors, la voilà enceinte. Et il se passe un événement violent. Il y a beaucoup de violence à Rome à cette époque-là. Au forum, Pompée est pris dans une échauffourée. Sa toge est tachée de sang et donc elle doit être changée. Il envoie un esclave chez lui en chercher une autre, mais il n'est pas blessé, je précise. Et quand Julia voit arriver la toge de son mari portée par l'esclave, il est mort. Et donc elle a perdu l'enfant,
sous le choc de cette...
absolument. Elle va avoir un deuxième enfant de Pompée, mais elle va mourir, comme souvent les mères, n'est-ce pas, à la naissance. Enfin, donc vous voyez, c'est une histoire qui est douloureuse, uniquement politique, ces mariages de Pompée, mais avec en prime l'amour de Julia, qui a coûté la vie à son enfant, en quelque sorte. Alors la belle histoire, c'est celle de Turia. Turia, elle nous est connue par l'épitaphe, par l'inscription sur son tombeau. Mariée à Lucretius, ils ont connu beaucoup d'ennuis. Lucretius était soldat pendant la guerre civile, il était au service de Pompée, et c'est Pompée qui a perdu. Donc, autrement dit, il était dans le mauvais camp. Il était donc pourchassé, il craignait pour sa vie, sa femme va s'entremettre pour arriver à lui dire de revenir, il va revenir avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, il sera attaqué par des brigands, je passe le détail. Il va finir par arriver clandestinement chez lui à Rome. Sa femme va le cacher entre le plafond de la chambre et le toit de la maison. Ensuite, elle va aller elle-même faire les démarches pour essayer de faire en sorte qu'il soit rayé des listes de proscription, qu'on lui pardonne.
Ça, c'était pas sur sa pierre tombale, quand même.
Si. C'est tout un texte.
Toute cette histoire qui est écrite.
Incroyable. Et alors, elle va donc s'entremettre. Elle va parfois être humiliée à cause de ça. Mais elle va obtenir gain de cause. Donc, il va pouvoir sortir de sa cachette. Et ils vont pouvoir vivre, enfin, heureux, après ces tristes épisodes de la guerre civile.
C'est beau,
Sauf que, Turia n'arrive pas à donner d'enfant à son mari.
Ah, là, là.
Et ne pas avoir un héritier, on l'a dit en commençant, c'est absolument dramatique. Alors, Turia se dévoue et propose à Lucretius de se séparer, qu'il épouse une femme qui pourra lui donner un enfant, et elle promet qu'elle s'occupera aussi de cet enfant,
c'est
et qu'elle aidera son
là.
Mari. C'était l'amour fou. Et Lucretius, tout aussi fou d'amour, a refusé. Et ils ont fini leur jour, non pas ensemble, puisque Turia est morte avant son mari, et c'est le mari qui a fait graver cette histoire en à la mémoire, de sa femme. Quelle belle histoire.
Non, c'est une histoire magnifique.
C'est magnifique. Ah, non, malheureusement, je crois qu'il faille penser qu'elle soit un peu exceptionnelle dans l'Antiquité romaine.
Mais cela dit, il y a des très belles histoires là qui touchent pas spécialement des hommes et des femmes, mais des Romains, tout simplement, parce que on parlera peut-être justement de ces notions d'impérialisme, de colonialisme. Il y a des troupes romaines qui sont allées même aux confins de la Chine.
Juste un mot là-dessus, parce que là aussi, impérialisme, ça veut rien dire pour un
à l'époque.
Ouais. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle l'Empire romain, mais il n'y a même pas de mot, vous m'entendez, en latin pour dire empire.
Ouais.
Le mot imperium ne veut pas dire empire. Ouais. Il désigne le pouvoir qu'on donne à un chef d'armée pour pouvoir mener une campagne ou faire quelque chose. Il ne désigne pas l'Empire. Il n'y a pas de mot. Et le mot impérialisme n'existe pas dans l'Antiquité. D'ailleurs, les historiens, c'est assez amusant, qui veulent absolument qu'il y ait de l'impérialisme, sont pas fichus de s'accorder pour savoir quand ça commence, avec qui et pourquoi et jusqu'où. Donc, c'est assez cocasse. Ça ne veut pas dire que Rome n'a pas exercé une forme d'autorité et de gouvernement sur l'ensemble de la Méditerranée. Mais quand on voit que c'était en respectant les cultures locales, les spécialités locales, les droits locaux parfois même, et donc ils n'ont rien à voir avec la notion d'empire que nous connaissons.
Ouais.
C'est absolument un mot qui ne veut rien dire pour un Romain. Le nationalisme n'existait pas non plus, c'est un mot du 19e siècle.
Vous dites d'ailleurs souvent que ceux qui faisaient partie de cet empire romain avaient leur petite patrie, et ils avaient deux identités.
Quelque sorte deux identités, parce qu'on était toujours originaire de quelque part.
C'est la question qu'on va se poser pour l'Europe, là. On revient de votre livre.
Bien sûr.
Est-ce qu'on est français d'abord, ou est-ce qu'on est européen?
Voilà. Même en Italie, c'était ça. Cicéron est originaire d'Arpinum, c'est à 30 kilomètres. Il était citoyen, en quelque sorte, pour lui, de sa petite patrie, et d'abord, bien sûr, citoyen de Rome.
Ouais.
Bon, mais il n'empêche que il y a cette notion de l'attachement, cet attachement à la terre qui est important. Et dans l'Antiquité, c'était l'inverse de ce que nous avons connu au 19e siècle ou au 20e siècle. Ouais. Ce sont les barbares, comprenez, ceux qui ne font pas partie de l'Empire romain, qui demandent à en faire partie. Ce sont eux qui sont demandeurs, parce qu'ils voient la différence de vie, ils voient les conditions d'existence.
Pour le coup, ils sont attirés par le Roman Way of Life.
Exactement. Exactement. Ouais. Donc, nous avons un système inverse, un mouvement inverse à celui que nous connaissons. Donc, ne parlons pas de colonialisme, ne parlons pas d'impérialisme avec ces mots-là, qui ne veulent rien dire pour un Romain.
Ouais. Alors, cela dit, je le répète simplement, parce qu'on est passé très très vite, mais vous racontez dans votre livre une anecdote formidable concernant une poignée de Romains et d'ailleurs d'autres nationalités, si j'ose dire, on dirait aujourd'hui, qui se sont battus pour l'Empire romain aux confins de la Chine, ont été pris.
Oui, enfin, pas exactement, je ne sais pas si j'ai deux minutes pour en dire. C'est une histoire extraordinaire.
Oui, non, mais voilà, je voulais simplement dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a une histoire magnifique à découvrir dans votre livre.
Effectivement, comment des soldats qui étaient avec Crassus aux frontières de l'Empire romain contre l'Empire partent là du côté de l'Irak, enfin de la Turquie exactement, ils ont été battus à Karaé qui est en Turquie aujourd'hui, se sont retrouvés prisonniers des Parthes, exilés à l'autre bout de l'Empire Parthes, pris par les Huns, puis ensuite par les Chinois, qui ont combattu les Huns, et ont finalement trouvé terre d'asile en Chine et se sont installés là-bas en apportant certains modes de vie. C'est tout à fait étonnant. Aujourd'hui, vous avez des gens de cette région-là qui ont les longs nez, comme on dit en Chine, c'est-à-dire l'apparence occidentale, et qui demande au gouvernement des analyses génétiques, pour prouver qu'ils ont bien comme ancêtres des gens de l'Empire romain, de l'Occident. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, là, dans les années 2000, là, en ce moment. C'est tout à fait étonnant.
Alors, on se retrouve dans un instant et on va parler de la sexualité à l'époque des Romains. 01 42 32 15 15, le standard Europe 1, europe1.fr pour l'Internet.
La vie quotidienne et la société romaine dans l'Antiquité. On en parle avec Jean-Noël Robert, votre invité, Jacques Pradel, jusqu'à 11h.
Voilà, et si on veut pas faire de contresens, effectivement, on peut définir l'homme romain, parce que autant on peut définir presque la femme romaine comme une sorte de geisha à certains moments quand même, non? Parce qu'elle se fait maquiller pendant des heures et des heures.
Exactement, et d'ailleurs elle ressemble, ce maquillage, vous savez, avec ce fond blanc.
Plâtré.
Plâtré, vous savez. Alors je donne la recette éventuellement à ceux que ça que ça intéresse.
Oui, oui.
Il fallait faire attention à la météo, c'est très important. Il faudra dire ça à Roland Cabrol. parce que le fond de teint n'est pas le même, le blanc que l'on met. Ouais. Si on craint le soleil, alors à ce moment-là, il faut pas mettre la crème blanche à base d'excréments de crocodile. Parce que si vous mettez celle qui est à base d'excréments de crocodile, elle va fondre au soleil.
Pas, ouais,
par contre, si vous mettez celle qui est à base de craie, eh bien, et si jamais il pleut, alors à ce moment-là, vous allez avoir le visage raviné, n'est-ce pas? Enfin, de toute façon, vous mettez un petit peu de rouge aux pommettes par-dessus cette figure blanche pour symboliser la vie, pour symboliser le sang, n'est-ce pas? Un petit peu de jaune aux sourcils pour symboliser la richesse, la couleur de l'or. Un petit peu de rose aux lèvres pour symboliser l'aurore et l'innocence. Enfin, vous voyez que c'est tout un symbole, le maquillage romain.
Si, on n'est pas loin de Fellini.
Absolument.
Alors, l'homme romain, vous dites en gros, vous me dites si je me trompe, il est misogyne, il est machiste, il est pédophile.
Mais oui, absolument.
On dirait aujourd'hui.
Ce sont des mots qui ne veulent rien dire à l'époque, bien évidemment, mais si on voulait, là encore, comme impérialisme, comme les autres mots que nous avons vus, les plaquer sur le romain, c'est peut-être ce qui conviendrait le mieux. Parce que l'homme romain, le citoyen à l'époque classique, c'est lui qui domine, c'est lui qui est le maître. La femme, on l'a dit, n'a pas d'existence, elle n'est pas citoyenne, elle dépend de son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas de rôle et qu'elle n'a pas d'influence.
Bien sûr.
Il n'empêche que c'est lui qui... Donc, c'est lui qui, par exemple, puisque vous vouliez parler de sexualité, va dominer. Et c'est à lui que l'on doit fournir du plaisir. L'homme romain ne va pas chercher à faire plaisir à sa compagne ou à son compagnon, mais il va en recevoir. Et il peut très bien, puisque c'est lui qui donne en quelque sorte dans cet échange quelque chose, alors que la femme, elle reçoit en elle. Donc elle doit rester fidèle, parce que pour que l'héritier soit bien de son mari, pour que ça soit pur, elle ne doit pas être souillée par quelqu'un dont l'adultère est très sévèrement réprimé pour les femmes. L'homme, en revanche, lui, n'est pas souillé puisqu'il donne. Alors, il prend son plaisir où il veut. L'épouse, elle est pour la reproduction, mais on a évidemment des maîtresses, des petites filles, des petits garçons, des grands, des moyens, ce que vous voulez, à condition que ça ne soit pas des gens de naissance libre.
C'est-à-dire
que le Romain, qui est un coureur entre nous, vous savez, souvent, dès qu'il aperçoit, c'est pour ça qu'on faisait accompagner les jeunes garçons à l'école par des pédagogues, ce qui veut dire celui qui accompagne l'enfant, n'est-ce pas, qui le conduit, eh bien, pour éviter justement qu'il ne se fasse
des tentations,
en cours de route. Alors, on a donc cette notion-là, la liberté pour l'homme, à condition que ça ne soit pas avec des gens de naissance libre. Ce qui fait que, effectivement, comme le disait d'ailleurs Pierre Grimal en son temps, le Romain est en fait polygame plus que monogame. Mais officiellement, il a une épouse et elle sera la mère, effectivement, du citoyen qui devra prendre son nom et sa fortune.
Et vous faites remarquer dans votre livre, Jean-Louis Robert, que le mot même d'homosexualité...
Mais il n'existe pas, il date du 19e siècle.
Voilà. Donc là,
ça
aussi,
ne veut rien dire.
La sexualité n'est pas assortie d'un genre, on va dire.
Non. Alors, bien sûr, on trouvera dans les textes certains qui condamnent plus ou moins ce que nous appelons l'homosexualité. Ouais. Nous avons par exemple, nous savons que l'empereur Claude, lui, c'est uniquement les femmes. Bon, c'est très bien. Bon. Mais nous savons que Virgile, c'est uniquement les garçons. Bon, voilà. Et pour autant, c'était Virgile et personne n'aurait pensé à lui faire un procès pour cette tendance.
Voilà. Alors, j'ai un œil sur la pendule, c'est dramatique. Parce qu'on resterait des heures et des heures à parler avec vous. Donc, je renvoie tout le monde à cette partie de votre livre. J'aurais voulu quand même qu'on entende
un petit mot de conclusion, non ?
Ou non, mais juste avant quelques secondes.
J'aurais voulu quand même dire quelque chose de très important.
Allez-y, je vous en prie.
L'Empire romain a réalisé quelque chose que personne n'a réalisé.
Ouais.
En 212 de notre ère, l'empereur a donné la citoyenneté, l'égalité à tous les citoyens de l'Empire. Vous parlez d'un impérialisme. Au lieu justement de dominer et d'opprimer, eh bien au contraire, on fait de tout le monde les égaux avec les mêmes droits, le fameux droit romain.
Ouais.
Ça me paraît très important. Et c'est cette ouverture et ce respect de toutes les croyances, cette forme de laïcité à la romaine, qui sont à l'origine même de notre humanisme de la Renaissance et de notre culture européenne.
Parce
c'est là
bien
qu'il
ça,
faut le chercher.
L'enjeu, donc, en
liberté,
fait...
Liberté, l'égalité, donner la liberté aux hommes, l'égalité en droit et cette reconnaissance, en quelque sorte, de la nature humaine, ce goût des autres que les Romains ont manifesté. Ça, c'est vraiment notre humanisme aussi. C'est à eux qu'on le doit. Et il il fallait le dire.
Alors, tout à fait d'accord, mais donc l'Europe des 27, qu'est-ce qu'elle aurait, on va dire, on va parler au conditionnel, à aller chercher comme meilleur héritage sans confondre les choses, c'est-à-dire sans se dire, puisque les Romains n'ont pas fait l'Europe avant l'Europe.
Non,
on est bien
non.
D'accord. Il y a quelque part, vous citez un auteur qui dit l'Europe est née le jour où l'Empire romain est mort.
Voilà, ça c'est effectivement un grand historien qui s'appelle Marc Bloch qui a écrit cela. Et c'est très vrai, parce que d'une certaine façon, c'est la structure même de l'Empire et son unité telle qu'elle a été mise, avec cette forme d'esprit, cette culture-là, qui a formé, quand même, qui a nourri justement l'Europe dès le Moyen-Âge. Et ça, je crois que c'est important. C'est ce qui nous unit. Avec beaucoup de vocabulaire, avec la langue, mais la langue est porteuse de la pensée. C'est ce qui nous unit en Europe. C'est ce qui fait qu'on est différent des Chinois, par exemple. Voyez-vous, si on veut trouver une justification à l'Europe aujourd'hui, elle n'est pas militaire, nous n'avons pas d'armée européenne, elle n'est pas politique, nous n'avons pas un gouvernement européen, nous savons tous les problèmes que cela pose à Bruxelles depuis déjà quelque temps et encore aujourd'hui. Elle est économique, mais c'est mondial, l'économie elle est aujourd'hui mondialisée. Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui nous permet de nous reconnaître comme frères en Europe, sinon justement cette culture et aussi des questions religieuses, mais là on n'a pas le temps de l'évoquer, mais enfin essentiellement quand même cette culture que nous avons héritée de la philosophie de l'Empire romain. Et ça me semble très important.
Cette culture, il faut aller au bout de la phrase, c'est une culture chrétienne à ce moment-là, parce que
les chrétiens ont évidemment beaucoup apporté et pris d'abord à l'Empire romain. Paul Vane, dans son dernier ouvrage, montre que les chrétiens se sont beaucoup plus inspirés des anciens qu'ils n'ont révolutionné leur rapport, enfin leur culture. Je crois que donc il faut rendre à César ce qui revient à César. Et effectivement, la chrétienté a apporté beaucoup de choses et a permis l'évolution et la suite de l'évolution. Mais la culture européenne à la base, celle qui nous unit, elle vient quand même de cet empire romain.
Alors, comme il nous reste une petite minute, j'ai envie de vous poser la question, puisque vous l'évoquez au tout début de votre livre, en donnant des exemples de contresens, comme ça, en disant que certains Américains, j'ai rien contre les historiens américains, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un historien américain qui compare finalement apparemment les conséquences du terrorisme et du 11 septembre aux États-Unis en les comparant aux conditions dans lesquelles, enfin, de la fin de l'Empire romain, quoi. Alors, j'ai pas compris très bien où est-ce qu'il allait chercher ces exemples.
Mais écoutez, je ne sais pas, parce que moi, qui vous l'avez compris, m'intéresse beaucoup aux Romains et les suis d'assez près. Je n'ai pas encore trouvé, n'est-ce pas, le fonctionnement ni des Twin Towers à Rome, ni de l'aviation qui permettent de faire des attentats. Mais
qu'est-ce qui fait que cette histoire millénaire, parce que ça a dû, et ça va durer encore presque 1000 ans d'ailleurs pour la partie orientale de l'Empire. Qu'est-ce qui fait que à un moment on se dit voilà, c'est la fin de l'Empire romain.
Ça c'est très discuté et discutable d'ailleurs. Simplement, ce qui fait, c'est qu'il y a eu beaucoup d'invasions. Les barbares voulaient vraiment venir sur le territoire de l'Empire. Je parle de l'Occident, puisque l'Orient, vous l'avez dit, a continué un certain temps, mais finira un peu de la même façon d'ailleurs. Simplement, de façon arbitraire, on a fixé la fin de l'Empire romain à l'an 476, tout simplement le jour où le dernier des empereurs romains a renvoyé les insignes du pouvoir à l'empereur d'Orient. À ce moment-là, on a considéré que Rome n'existait plus en tant que pouvoir romain et qu'il était passé en d'autres mains. Mais c'est à la fois un peu arbitraire. Mais il est évident quand même que ces dernières années, ce dernier siècle a été très douloureux pour les braves gens, pour les gens simples, avec toutes les conditions de vie très tourmentées qu'ils ont connues, et qu'on est quand même bien loin, même si je n'aime pas parler de décadence, on était quand même bien loin de ce qu'avait été l'époque d'Auguste.
Je vous remercie beaucoup, vraiment, Jean-Noël Robert, d'avoir passé votre matinée en notre compagnie sur Europe 1. Je rappelle le titre complet de ce livre qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres, Rome, la gloire et la liberté, et le sous-titre aux sources de l'identité européenne. C'est un livre absolument passionnant que je recommande à tout le monde. Merci infiniment et à demain, ma chère Julie.